Médialogue sur la première.
La Fondation Ebenezer remet samedi prochain son prix média annuel à Christophe Ungar, journaliste scientifique à la RTS. Son reportage est intitulé « Dans le cœur du cerveau autiste », diffusé dans l'émission 36.9 de la TSR. Extrait.
Là, vous voyez les poissons, ils sont en train de se faire plein de bisous parce que, voilà, ça témoigne du manque affectif dont je souffre parce qu'avec mon syndrome, je peux pas avoir une vie affective normale. Le fait que je crois que je suis trop différente.
Ce monsieur est né le 18 avril 1785, c'était un lundi, décédé le 4 janvier 1851, c'était un samedi.
Mais est-ce que vous le voyez, le calendrier, ou est-ce que c'est de la mémoire?
C'est un peu la mémoire, mais je le vois aussi, comme image dans ma tête.
Et il ressemble à quoi, ce calendrier?
Calendrier, comme un petit calcul.
Le 31 décembre 2199.
2199, on va essayer ce calcul, c'est un peu difficile. Si le mardi.
C'est juste.
Voilà. Bravo.
Il aime pas les surprises, il aime pas les changements dans sa routine. Et s'il y a des changements, il faut qu'il soit prévenu. Là, par exemple, vous êtes venu, donc on a mis vos photos, on a mis des pictogrammes comme quoi il allait être filmé, pour qu'il soit averti de ce qui allait se passer de spécial dans la journée.
Un extrait du reportage intitulé « Dans le cœur du cerveau autiste », Christophe Ungar. Bonjour.
Bonjour.
C'est assez bouleversant ce témoignage, c'est assez touchant.
Ouais, c'était une très très belle aventure humaine, un très beau travail d'équipe aussi, hein, parce que c'est le fruit du travail d'un réalisateur, d'un caméraman, d'un preneur de son, et c'est vrai que c'était aussi de très très belles rencontres.
Alors vous allez recevoir le prix de la Fondation Ebenezer, un prix annuel. Voilà, on ressort indemne d'un reportage comme celui-ci?
Ouais. Pas toujours, non, c'est vrai que celui-là, surtout en plus c'était mon premier, hein, quand même, reportage pour 36.9. Et c'est vrai que quand on travaille à peu près un mois et demi, deux mois sur un sujet comme celui-là et qu'on rencontre beaucoup de personnes, des personnes très touchantes, qu'on entend beaucoup de choses, c'est vrai que ça nous travaille même des années après, même en tout cas une année après.
En tout cas vous avez, durant ce reportage, on l'entend quelquefois parce que vous laissez apparaître ça dans le reportage, vous avez été ému, assez bouleversé, surtout par le monde intime qui vous a été dévoilé, des personnes que vous avez interrogées, des personnes que l'on dit autistes, mais il y a tellement d'autisme que c'est difficile comme ça à faire des catégories.
C'est clair, moi j'ai vraiment été touché par l'honnêteté, le naturel de ces personnes, la sincérité avec laquelle elles nous parlaient, puis aussi la lucidité de beaucoup d'entre eux, en tout cas ceux qui ont ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, donc une forme d'autisme de haut niveau où ces gens parviennent à nous parler. C'est pas le cas de tous les autistes, mais en tout cas ceux qu'on voit dans le reportage qui nous parlent, ceux-là ont une lucidité qui m'ont vraiment vraiment touché.
Alors, l'intention journalistique, c'est évidemment pas de recueillir gratuitement des témoignages, mais c'était évidemment de démontrer que la recherche dans ce domaine, pour rendre à ces gens la vie un peu plus agréable, eh bien, la recherche évolue. Et c'est l'intention de votre démarche et de votre reportage. Racontez-nous.
Alors oui, les neurosciences ont fait d'énormes progrès. Il y a quelques dizaines d'années, pour beaucoup, l'autisme, c'était une psychose infantile, c'était la faute des parents, c'était la faute de la mère, cette mère frigidaire, ces enfants non voulus. Et heureusement, je dirais, aujourd'hui, les neurosciences apportent de nouvelles réponses, montrent que l'autisme n'est pas une psychose infantile, mais que c'est un trouble génétique, un trouble neurologique, un cerveau finalement qui se développe pas exactement comme le nôtre.
Alors c'est ce que vous démontrez dans votre reportage, évidemment avec des compléments d'information de la part de scientifiques. C'est difficile de mettre une caméra devant un autiste ou dans la sphère privée de l'autiste. Est-ce qu'on perturbe pas un peu l'ensemble ?
Alors, on était persuadés de ça au départ, et on s'est dit, alors, on avait la chance de pouvoir préparer un petit peu, donc de rencontrer ces personnes sans caméra, juste Ventura Samara, le réalisateur, et moi-même, et on s'est dit, allez, on prend une petite caméra avec nous, parce qu'on sait jamais, peut-être que ces gens, finalement, vont accepter une fois, puis la deuxième fois dire non. non seulement elles ont accepté la première fois de nous parler, mais de façon extrêmement sincère, mais en plus la deuxième fois quand on est arrivé avec la caméra, avec en plus un autre caméraman, et un preneur de son, donc quatre grands bonhommes, on s'est dit que certains allaient se liquéfier ou peut-être dire des choses différentes, et non, le même naturel, on a retrouvé le même naturel, aucun stress, la même sincérité, la même honnêteté, les mêmes émotions, qu'on soit là ou pas finalement.
Incroyable paradoxe pour des personnes qui sont à l'égard de leur environnement hypersensibles.
Ouais, alors moi je trouve que ça cassait énormément de clichés, en tout cas ce cliché de l'autiste, cette personne qui n'a pas envie de communiquer avec les autres, qui se referme sur elle-même par choix. Non, je crois que vraiment ce qu'on a découvert, en tout cas chez les personnes qu'on a interviewées, c'est une volonté d'aller vers l'autre, mais une grande incapacité à finalement nous comprendre, nous, neurotypiques, hein, c'est comme ça qu'on nous appelle, c'est comme ça que les autistes, certains autistes nous appellent, nous, neurotypiques, et je crois qu'il y a une image qui est particulièrement bonne, l'autisme c'est finalement comme si nous, neurotypiques, nous retrouvions dans un petit village rural en Chine, avec des menus en chinois, avec une culture chinoise, avec une langue chinoise, finalement, on n'y comprend rien. On a envie de manger, on a envie de parler avec les gens qui sont autour de nous, mais on n'y comprend rien. Et c'est dur, et c'est frustrant, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se retire finalement.
Et l'exemple est assez pertinent, puisque pour dialoguer avec un autiste, eh bien, c'est probablement nouveau, on utilise ce que l'on appelle des pictogrammes. Et vous faites de manière égrenée le portrait d'une famille dans votre reportage, qui a été diffusé donc dans 36.9, avec un enfant qui s'appelle Raphaël, il a 8 ans. Et au bout du fil, eh bien, nous avons la chance ce matin d'avoir le papa, Filippo Passardi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Filippo Passardi, vous apparaissez quelques minutes de manière perlée, comme ça, dans le reportage. Vous avez un fils qui s'appelle Raphaël. Il a vu le film ?
Oui, il a vu le film.
Est-ce qu'il a aimé ?
Oui, il a surtout aimé voir ses parents, c'est-à-dire de voir ses parents d'un côté de l'écran et de l'autre côté, en fait. Donc voilà, c'était ça sa principale réaction, de voir papa et maman de l'autre côté.
Alors, on l'évoquait il y a une minute avec Christophe Ungar, vous êtes une famille, vous avez vécu justement ce passage en ce qui concerne la recherche et le diagnostic médical, entre l'inquisition, j'allais dire, psychanalytique dans votre vie privée, au moment où on dit, bah, tiens, c'est peut-être le cerveau qui a des particularités concernant les autistes et votre enfant autiste, et vous avez vécu cette dure réalité, c'est-à-dire une inquisition dans votre vie sentimentale et sexuelle. On vous a posé des questions assez incisives à ce sujet.
Oui, tout à fait. C'est donc un processus, je pense, classique de la psychanalyse. C'est effectivement de remonter à l'histoire de notre famille, de notre vie, aussi de la vie de nos parents, pour essayer de comprendre pourquoi l'autisme s'est développé. Et c'est vrai que de prime abord, c'est quelque chose qui surprend, notamment quand on a accès à certaines informations qui montrent que c'est un trouble d'origine neurologique et qui ne se développe pas suite à des problèmes relationnels.
Alors le jury du prix Ebenezer le reconnaît, le souligne dans ses appréciations, c'est que c'est une pathologie qui a manqué d'explication, de communication. Hein. C'est une maladie qu'on connaît mal. Finalement, ça vient à point nommé ce reportage. Faire du journalisme, il y a quelques vertus à cela, notamment pour décrire ce que vous avez vécu et traversé.
Oui, absolument. Je pense que c'était important de le dire. L'autre intérêt aussi du reportage, c'est effectivement, comme disait Christophe Ungar, d'ouvrir finalement le regard, un nouveau regard sur l'autisme à tout le monde, pour voilà, enlever
les préjugés.
Ces préjugés qu'on avait, qu'effectivement ce sont des personnes qui se replient, qui n'ont pas envie d'être en contact avec les autres. Bah, effectivement, ils ont des problèmes de communication, comme l'analogie avec un village en Chine, c'était parfait. Mais effectivement, c'était important de le dire, je pense. Voilà.
Alors, vous n'êtes pas en Chine, vous êtes à Genève, donc en Suisse romande. Comment est-ce que vous avez vécu l'intrusion, tout de même, il faut dire les choses par leur nom, l'intrusion d'un journaliste, d'une équipe de télévision dans votre famille, de votre intimité, pour raconter ce qui fait partie de votre vie privée? C'est sur la place publique maintenant, comment vous vivez ça?
Alors, je le vis bien, mais je remercie d'ailleurs le journaliste et toute l'équipe du travail de préparation. Un reportage, ça se prépare, et là, effectivement, la première visite sans caméra, est très très importante. Et puis par la suite aussi, Raphaël semblait ne pas être perturbé par le reportage. Et ça, c'était l'essentiel. Donc pour nous, on le vit bien de façon publique du moment que le reportage était bien préparé et s'est bien passé.
Alors on découvre dans ce reportage, c'est anecdotique, mais c'est étonnant que vous dialoguez avec Raphaël, donc qui, je le rappelle, a 8 ans, vous dialoguez avec des pictogrammes et des images. Et puis on apprend dans ce reportage, vous en utilisez 5000. Raphaël, donc, a mémorisé et connaît la signification de 5000 images.
Alors, on a une base de données, effectivement, de 5000, mais on ne les utilise pas tous les jours, hein. Effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Il en connaît, bien sûr, de très nombreux, plusieurs centaines, probablement. C'est difficile toujours à savoir, mais ça a été un outil vraiment pour démarrer la communication. Maintenant, donc, suite au reportage, le temps est passé, presque un an et demi, il commence à développer un langage oral, mais il s'appuie toujours de façon très importante sur les pictogrammes, effectivement.
Philippe Passardi, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Medialoc et d'être intervenu quelques minutes ce matin par téléphone. Christophe Ungar, quelle réceptivité chez les scientifiques à l'égard de votre reportage? Quand on fait un reportage de cette nature, on le fait aussi pour les scientifiques qui vont regarder?
Oui, je crois, mais il y a un consensus hein, maintenant, en tout cas dans le domaine des neurosciences. Je crois que certaines choses sont sues. C'est un trouble neurologique, beaucoup l'acceptent. Il existe encore une vieille garde psychanalytique, probablement francophone, qui est un petit peu réticente, parce que aussi les neurosciences font peur et nécessitent certaines connaissances. Et peut-être que certaines personnes sont encore un peu bloquées par rapport à ces nouveaux savoirs. Mais je crois que c'est en train de changer. Je crois qu'en ayant parlé avec les différents interlocuteurs dans ce reportage dernièrement, les choses ont déjà même changé depuis un an, depuis 5 ans, et je pense que progressivement, cette vision neuroscientifique de l'autisme, ce trouble neurologique développemental, va commencer à s'imposer.
Christophe Ungar, j'invite les auditeurs eh bien, à se rendre sur notre site pour voir l'intégralité, c'est à peu près un peu moins d'une trentaine de minutes, votre reportage sur l'autisme. On va conclure cet entretien avec vous, évidemment, une image, un détail, un petit événement qui vous a le plus touché dans ce reportage.
Ouais, je finirai peut-être par une frustration parce qu'on a eu effectivement la chance de pouvoir interviewer ces personnes. Les interviews ont toutes duré une trentaine de minutes et Katia, qui est une personne qui a le syndrome d'Asperger, qu'on entend au début et qu'on entend à la toute fin, m'a dit certaines choses sur le monde, sur la société finalement hyperactive dans laquelle on vit, qui m'ont fortement touché parce que je me suis dit waouh, elle a une vision du monde qui est tellement correcte et elle souffre pourtant de tellement de stéréotypes en pensant qu'elle n'est pas capable d'avoir cette vision-là, que l'autisme c'est un repli. Et j'ai été vraiment, par son témoignage, qu'on n'a malheureusement pas pu mettre en intégralité, j'ai été extrêmement touché par ce témoignage-là.
C'est vrai que cette personne fait preuve d'un discernement, d'une sensibilité absolument inouïe à l'égard de son environnement.
Mais elle disait par exemple, dans les supermarchés, elle détestait aller dans les supermarchés parce que finalement il y a 35-40 sortes de yaourts différents avec des couleurs différentes. On est matraqué par de la publicité, des images. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre simplement. Donc, elle laboure son jardin, elle fait pousser ses propres plantes, ses propres légumes, parce qu'elle en a marre, finalement, de cette société où les signaux, les stimuli sont tellement puissants que finalement, ça l'agresse. Elle se sent agressée par notre société. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être autiste pour, des fois, se sentir agressé par la société dans laquelle on vit.
Christophe Ungar, merci. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes journaliste, donc scientifique à l'ARTS. Vous allez recevoir samedi prochain le prix annuel de la Fondation Ebenezer. Donc merci. Merci aussi à Filippo Passardi, père de Raphaël, 8 ans, qui apparaît dans votre reportage. Et puis transmission aussi de mes chaleureux messages à Raphaël. Bonne journée à lui.